Autre radio, autre culture, bonjour. Nous recevons de nouveau pour la troisième fois Philippe Tessier-Ducrot. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Ingénieur du son, et c'est avec lui que nous allons parler technique et grande technique aujourd'hui. Et nous avons la participation de Christophe Bouillot. Bonjour Christophe.
Bonjour Marion, bonjour Philippe.
Qui posera les questions que n'auront pas posées les auditeurs de audiopeople.fr.
Je vais essayer.
La première question que je vais vous poser, Philippe, je suis allée voir un concert de musique médiévale au musée de Cligny, donc dans le 5e, et ce sont des gens, d'excellents musiciens, qui fabriquent leurs instruments, puisque ces instruments ne sont pas construits actuellement. Et je discutais avec eux sur les problèmes d'enregistrement, et ils me disaient qu'ils avaient, eux, des problèmes, parce que leurs instruments avaient besoin de réverb, de pièces très grandes pour pouvoir être performants. Et qu'en général, dans les studios, l'acoustique est telle que ça étouffe leur musique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de réaction ?
Déjà, je suis un peu surpris qu'ils évoquent le mot studio, parce qu'en général, les gens qui enregistrent de la musique médiévale enregistrent dans des églises.
Oui,
et en général... Les ingénieurs du son et producteurs qui collaborent sur ce type de projet savent très très bien que c'est quand même l'acoustique qui est beaucoup le plus important. Enfin, moi, les amis preneurs de son classiques que je connais choisissent en priorité l'acoustique avant même quelconque type de micro, quoi. Donc, je suis un peu surpris qu'ils aient cette problématique. Je dirais qu'à la limite, je ne pourrais leur dire allez enregistrer dans les endroits qui sont faits pour. Qu'est-ce que vous allez faire dans un studio ? Non, enfin,
non
je sais
c'était
pas.
Eux, ils n'enregistrent pas dans de studios. Hein. Ils disaient exactement le problème qu'ils avaient au sein des studios.
Oui.
Ils ne pouvaient pas enregistrer dans des studios à cause de ça.
Oui, en effet, mais ça, c'est une problématique. Enfin, ce qui me surprend dans la question, c'est le fait qu'il semble... il y a comme une attitude de découvrir une problématique qui est connue. Quoi. Du reste, la musique médiévale, elle a été, la plupart du temps, me semble-t-il... composé par des gens qui la voyaient exécuter dans des églises ou dans des lieux avec des réverbérations naturelles.
Oui, ou dans des châteaux.
Ou dans des châteaux, mais enfin, on n'était pas dans des HLM, je veux dire, on était quand même dans des endroits où il y avait des grands volumes. Donc, je ne connais pas de disque de musique médiévale qui était enregistré dans un studio. Donc, pour moi, c'est une problématique connue. C'est-à-dire qu'on enregistre la musique médiévale, comme la musique baroque, comme les trois quarts des musiques classiques, dans des lieux qui sont soit des salles de concert, soit des églises, ou alors des studios prévus à cet effet, genre Abbey Road, dont on parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Même parfois des violonistes, ou même certains cuivres ont des difficultés à jouer dans certains studios parce que c'est trop sec. Après, voilà, je pense que le choix numéro un, c'est évidemment l'acoustique, avant de la problématique, qui est une fausse problématique de la console ou de je ne sais trop quoi, évidemment. D'autant plus que s'ils sont bien pour enregistrer, le micro, ça devient une problématique secondaire.
En revanche, la deuxième question que je vais vous poser, c'est une question de Patrice Kubiak, des Studio K. J'en reviens parce que la musique médiévale, il y a des genres de ouds qui sont utilisés, des flûtes très douces. Alors, lui pose la question suivante. Puisque vous allez aborder les questions techniques, je me permets de m'interroger sur sa technique de prise de son du oud. Quel micro-couple micro-préampli lui semble le plus approprié, le plus adéquat ? Je ne cherche pas de recette, c'est de la curiosité. Je me souviens d'avoir sonorisé un Noir Brahem avec un Neumann U397.
Alors, il y a plusieurs questions là. D'abord, moi, je ne peux éventuellement apporter d'éclairage que concernant l'enregistrement et certainement pas la sonorisation.
Oui.
Moi, je dirais que l'enregistrement d'un oud, j'ai pas de méthode particulière, si ce n'est totalement dépendante de ce que va être le projet. Moi, j'ai enregistré des ouds dans des circonstances très variables. Ça va aussi bien de Camilla qu'on évoquait la dernière fois, son premier disque qu'on a fait systématiquement dans des acoustiques prévues, réfléchies, église, salle de concert, même en extérieur, où là il s'agit de pièces oud plus voix toutes seules, comme j'ai pu enregistrer des ouds avec les projets type de mélange avec de l'électronique, de projets comme le groupe du oud, avec les deux musiciens Smadge et Mehdi Adab. Alors déjà, je dirais que ça dépend vachement de ce qui va être fait après. Enfin, pour moi, c'est la même problématique que pour n'importe quel instrument que j'enregistre. C'est-à-dire, est-ce que c'est du oud classique ? Est-ce que c'est du oud qui va être le théâtre d'improvisation de type culture jazz ? Est-ce que ça va être du oud qui va être mélangé avec de l'électronique ? Est-ce qu'il va y avoir une post-prod ? Est-ce que... Voilà, alors là-dessus, il y a plusieurs directions. J'ai pas de méthodologie générale. Je peux pas répondre pour faire le oud, tu fais comme ça. Non. Je veux dire, ça dépend énormément. Ça dépend par exemple aussi si la personne qui joue le oud chante en même temps, par exemple. Ça peut être un fameux problème. des problèmes de phase, des problèmes de gens qui bougent. Moi, je dirais que ça dépend énormément de l'acoustique environnante et de ce que je recherche. Alors, si, pour tenter une réponse, je dirais que dans des ouds qui vont être à vocation d'être mélangés après avec de l'électronique, comme du oud, par exemple, avec lesquels j'ai fait 3 disques, j'aurais plutôt tendance à travailler en proximité, avec peut-être des micro-omnis pour pouvoir me permettre de rapprocher et garder quand même la souplesse. Après, les préamplis, bon, je sais pas, je dois citer des marques.
Vous pouvez.
Bah, je vois pas comment.
Mais je comprends la question de Patrice, parce ouais. qu'en écoutant vos enregistrements de oud, rien qu'à les écouter, on a les poils qui se hérissent.
Bah, c'est fort
tellement
gentil.
Tellement c'est prenant. Alors, je ouais. comprends sa question qui se pose.
J'entends, mais pourquoi la personne, c'est une personne qui pose la question en contre-réaction à une écoute qu'il a fait de oud que j'avais enregistré.
Probablement, j'imagine.
D'accord.
Oui. Bah,
d'abord, il faut dire les choses. S'il est touché, je pense que c'est déjà au musicien qu'il faut qu'il s'adresse, parce que franchement. Quand on enregistre des gens comme Camila ou des gens comme Mehdi Adab ou Anouar Brahim, avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler une fois, c'est eux hein, qui provoquent l'émotion, c'est pas moi, hein, ça c'est évident. Hein. Alors après, ça dépend aussi de l'environnement, oui, ça c'est important aussi. Ça dépend si c'est du wood tout seul ou si c'est où il y a une batterie à côté. Ou, je dirais que chaque cas est tellement spécifique que je me sens un peu. Je suis ennuyé parce que j'aimerais bien avoir une réponse à donner, mais c'est comme si je demandais, quand tu as un des invités, qu'est-ce que tu préfères faire à manger, quoi. Bon, ça dépend si c'est le déjeuner, le dîner, si c'est des amis, des Français, des Américains, des Japonais, j'en sais rien. Chaque cas est vraiment spécifique. Pour moi, le preneur de son qui vous dit le oud, ça s'enregistre comme ça, ou le mec qui vous dit le piano s'enregistre comme ça, pour moi, c'est un escroc. Je sais pas. Alors, faut me définir un cadre. Bon, pour Camila, par exemple, le disque Macan, j'aime bien travailler avec 3 plans sonores, en général, dans ce genre de circonstances, où on essaye de capter l'acoustique un peu d'une façon classique. Comme elle chante en même temps, et que je sais qu'après, c'est souvent délicat de faire un mélange naturel et agréable pour des problèmes de phase sur lesquels on ne va pas s'étendre. Alors là, pour le coup, j'avais prévu une sécurité, c'est assez amusant, que je n'ai pas toujours utilisée. J'aime bien les mini DPA que j'avais mis aussi en renfort. Un, carrément derrière les cordes, juste pour avoir une éventuelle proximité, quitte à la mixer à peine, mais juste faire un effet un peu de zoom. Et j'avais regardé une fois dans un journal sur l'opéra, où j'avais remarqué que les gars mettaient des fois sur les chanteurs un micro au-dessus du front. Et ils utilisaient des mini DPA pour pouvoir... j'ai fait ça aussi, j'avais mis ça dans les cheveux de Camilla, et pour avoir une éventuelle possibilité, non pas de timbre, mais de proximité de la voix au cas où, je crois pas m'en être servi. Mais sinon, bah, c'est un espèce de mélange aussi... c'est délicat. Hein, là, pour le coup, c'était de la proximité, mais avec aussi 2-3 plans d'ambiance. En général, c'est des bons micros. Bon, des statiques, ça c'est sûr, en l'occurrence. Mais par contre, si jamais c'est un oud qu'il faut enregistrer dans un environnement bruyant, parce que c'est ça l'enfer, en fait, les problèmes, ils sont là. Bah, je peux aussi mélanger avec la cellule... Voilà, enfin, c'est ce que je crains, de ne pas pouvoir dire grand-chose de plus que ça, hein, parce que...
C'est déjà pas mal. Philippe, est-ce qu'on a Frédéric Jens au téléphone ?
Allô ?
Oui, bonjour.
Allô,
Frédéric.
Bonjour à tous.
Donc, quelle est la question que tu poses à notre cher Philippe ?
Alors, bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, lors de votre précédente émission, vous avez dit que la mise en espace était votre dada.
C'est vrai, c'est un de mes dadas, oui, c'est vrai, j'aime ça.
Est-ce que vous pouvez en dire plus, par exemple, est-ce que vous en discutez avec les musiciens, ou est-ce que vous considérez que c'est votre domaine ? Et aussi, je voudrais savoir quels outils vous utilisez, est-ce que vous faites ça à la prise avec des micros, ou plutôt de la correction fréquentielle, des délais, des réverbes ? Et est-ce que vous avez déjà expérimenté ça en multicanal ?
Alors, multicanal, j'ai pas expérimenté.
D'accord.
Hélas, enfin si, il y a très longtemps, mais sur de la sonorisation, mais c'était il y a très 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 longtemps, donc ça rentre pas dans l'équation. J'ai pas d'expérience de 5-1, ça m'a intéressé un moment, puis j'ai cru comprendre que ça prenait pas trop.
Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de marché.
Voilà, il n'y a pas de marché. Alors en même temps, moi je déteste pas quand il n'y a pas de marché, mais faut pas non plus pousser. Donc ça, c'est un domaine que je ne connais pas bien. Hein. J'ai entendu une fois un truc en 5-1, j'avais entendu chez Diam, Yves Delaunay m'avait fait écouter le projet Beatles Love en 5-1. C'était sublime. Ça, j'avais trouvé ça très fort, en particulier la voix centrale. Ça me donnait des possibilités, je le trouvais absolument incroyable. Mais à titre personnel, je ne connais pas. Bah, sinon. Les outils que j'utilise, c'est un peu un mélange de tout ce que vous décrivez. Hein. C'est, ça dépend si c'est un projet dont j'ai la responsabilité en entier.
Ouais.
C'est-à-dire si je mixe et si j'enregistre et que je mixe, et qu'éventuellement aussi si j'ai une partie de responsabilité de réalisation. Si je suis responsable de l'ensemble du disque, bah, y a des dispositifs que je mets en place dès la prise. des couples microphoniques, par exemple, des placements des musiciens les uns par rapport aux autres pour pouvoir bénéficier, par exemple, vous avez une batterie, un saxophone, quand la musique le permet, après c'est à chaque fois des cas très très particuliers, ça dépend aussi de la capacité des musiciens de jouer ensemble, est-ce qu'il va y avoir des réparations, est-ce qu'il n'y en aura pas, parce que dans ces cas-là, il y a des choses qui ne sont pas possibles. On comprend pourquoi, hein. Si je profite par exemple de l'ambiance d'une batterie pour enregistrer un sax, c'est-à-dire que le saxophone, le micro du saxophone participe à la récupération de l'ambiance de la batterie, vous me suivez ?
Oui, oui, très bien.
C'est évident que si j'ai affaire à un saxophone où il va falloir systématiquement faire des réparations, c'est pas possible. Donc déjà, ça c'est une des premières conditions. Déjà, ça correspond au niveau de la prise de son à des placements des musiciens les uns par rapport aux autres, ce qui suppose aussi une véritable envie de collaborer de leur part, qu'ils comprennent aussi que ce n'est pas parce qu'ils aiment être là que c'est là que c'est bien. Donc ça suppose aussi un rapport de confiance. Après, en mixage, évidemment, j'ai l'usage de reverb, délai, j'aime bien utiliser la phase aussi. J'aime bien utiliser des fois des choses que je mets volontairement plus ou moins hors phase, je dirais. J'aime bien au résultat avoir quelque chose d'un peu ludique. J'aime bien quand il y a des éléments qui sont très ponctuels mélangés à des éléments un tout petit peu poétiques, un peu qui flottent.
D'accord.
Mais j'aime pas quand tout flotte. Pour moi, le truc marche quand on a quelque chose de solide auquel se mélangent des éventuelles petites choses, qui se déplacent ou qui... Il y a des choses, des fois, quand je ne sais pas où les mettre au niveau spatial, tiens, par exemple, ça me fait penser à ça, des fois, je les panoramise entre 10h et 14h, mais très très lentement tout le long du mix. De façon à ce que ne s'en aperçoive pas, mais finalement, on ne sait pas où il est.
D'accord, mais rien à voir avec le tempo, c'est vraiment...
Ah oui, oui. Ça peut avoir avec le tempo sur des projets qui sont en plus à tendance tempo, mais ça peut avoir, on peut ne même pas s'en rendre compte en fait, sauf que vraiment dans une écoute particulièrement précise ou au casque. Mais des fois c'est des choses comme ça, quand il y a un truc qui reste à un point fixe, qui n'a pas son répondant, son écho dans un autre instrument, j'aime bien par exemple balader un poil, mais il faut que l'élément, ça dépend aussi, c'est très variable. Il y a de l'usage à partir de la prise de son, ou alors quand je mixe des choses que je n'ai pas enregistrées, refabriquer des espaces avec effectivement les accessoires habituels, reverb, délai, et quoi, voilà.
Et ces éléments qui bougent, c'est des modifications d'intensité, de la stéréo d'intensité ou de temps ?
Non, là c'est que d'intensité, parce que c'est en général une piste dans une piste mono par exemple. Je sais pas, j'imagine, vous savez, des fois dans certaines musiques, vous avez des éléments qui sont les fondamentaux du morceau, puis il y a des éléments décoratifs qui viennent un tout petit peu, c'est le poivre, le sel, ces éléments-là, des fois, j'aime bien les bouger un peu tout le long du mix, d'abord parce que des fois je sais pas quoi en faire, vraiment, où les mettre, et j'ai trouvé que la solution, ça marchait assez bien, parce qu'en fait, ça s'entend pas, mais ça s'entend aussi. Mais ça, c'est un petit point de détail. Mais sinon, c'est les outils habituels. Très franchement, j'ai rien inventé. J'aime bien aussi, des fois, si doubler une piste, la copier, la décaler un peu, l'équaliser différemment. Mais enfin, ça, j'ai rien inventé.
Ouais. Et quand vous voyez l'arrangement, vous avez déjà décidé en fait, la mise en espace, en fait.
Alors,
des éléments principaux, je veux dire.
Disons que ça, c'est quand je commence un mix, vous voulez dire, par exemple.
Oui, oui, ou même avant la prise, moi, c'est ça que je voudrais savoir.
Ah non, avant la prise ? Non. Non, parce que ça, j'ai vraiment besoin... Non, j'ai vraiment besoin d'entendre... J'ai vraiment besoin d'entendre la musique enregistrée. Parce que ça ne sera pas avec un... Entre un gars qui vous dit « j'ai un projet qui est un projet violon-guitare », c'est une chose de l'entendre dire, et puis c'est une chose de l'entendre enregistrer.
Ouais.
Et c'est pas forcément... Enfin, moi, je raisonne à partir de ce que j'entends l'enregistrement, au moment où c'est passé à travers les micros. Et là, je me pose la question. J'ai rarement une idée préconçue avant d'avoir vraiment entendu le résultat via le micro.
D'accord.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Très bien. Et aussi, je voulais savoir si les musiciens avaient des opinions là-dessus ou si vous laissez complètement carte blanche, que ça les pas que ça les intéressait pas, mais qu'ils considéraient que c'était à vous de gérer ça.
Alors, les musiciens, donc les artistes, ont toujours des idées sur tout. Bon, alors évidemment, ils ont. Mais alors, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que autant les musiciens sont. Il y a d'abord un truc de langage. Les musiciens, des fois, ils parlent de présence, alors qu'ils veulent parler de niveau. Alors souvent, quand je commence à rentrer en dialogue avec des musiciens qui s'intéressent un petit peu à la mise en espace, déjà, je leur explique la différence. C'est-à-dire, je m'approche de tout près, je leur parle tout doucement à l'oreille, et je leur dis, là, je suis présent, mais je suis faible. Après, des fois, je me mets à 3,50 m, je gueule, et je dis, là, tu vois, je suis très fort, mais je suis très loin. Alors déjà, ça, c'est un basique qui permet de commencer à discuter. Parce que souvent, un musicien vous dira, je manque de présence sur la trompette. Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est, je manque de niveau sur la trompette. Alors ça, c'est quand même le problème présence-niveau, c'est quand même le problème de base de toute forme de mise en espace. On est d'accord là-dessus?
Oui.
Et ensuite, moi, j'ai une certaine vision des choses qu'en général, je propose. C'est après que les musiciens entrent en réaction. Et puis là, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Mais souvent, ils m'en laissent la responsabilité. Il y a aussi une autre raison, c'est que souvent, les gens, à moins qu'ils ne soient vraiment férus d'écoute de disques, ils sont souvent plus à même de parler de gauche-droite, mais rarement devant-derrière. Ça, c'est une donnée un peu subtile déjà. Voilà, donc c'est pourquoi en général, c'est moi qui construis le truc.
D'accord.
Mais c'est assez instinctif en général, il faut que ça fonctionne. Il y a des fois où je commence un truc, puis je réécoute, et puis je me dis, tiens, ça marche pas, il faut que j'essaye ça.
D'accord.
Il y a des disques où je vais me dire, tiens, ben là, c'est du trio... Mais vu la musique, ben je pense que ce serait bien que la batterie soit un peu à droite, la basse un peu à gauche. Ça va dépendre aussi de la lisibilité de la musique. Si par exemple c'est une contrebasse qu'il faut placer dans l'espace, qui a beaucoup beaucoup de notes à faire, je vais peut-être essayer de faire en sorte qu'elle se différencie aussi dans l'espace de la batterie. Par contre, si on est dans des trucs plus classiques pop, j'aurais plutôt tendance à faire la bonne habitude de la grosse caisse et de la basse au centre. Après, ça dépend vraiment du projet. Hein.
D'accord.
Est-ce que ma réponse vous a éclairé ou pas?
Très bien. Oui.
Bon, ben, je t'en suis très heureux, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Est-ce que tu restes avec nous, Frédéric?
Oui, je vais vous écouter, bien sûr.
Voilà, alors si tu as des questions, tu n'hésites pas.
Voilà.
Moi, je vais continuer parce que j'ai tout un lot de questions d'ingénieurs du son. Alors, question de Jacques Hubert de Radio France. J'ai beaucoup apprécié le son de l'album Xenophonia de Boran Z, notamment pour l'atmosphère éthérée qui n'est pas sans rappeler la signature sonore de CM.
Oui.
Pouvez-vous nous détailler la façon dont vous avez obtenu ce résultat et en quoi l'approche diffère-t-elle d'un projet jazz plus traditionnel tel celui d'Éric Lénini?
Alors, la différence, elle réside déjà en la vision de la musique de l'un et l'autre, à savoir Éric Lénini et Boyan. Déjà, la différence de point de vue, elle réside... Éric, lui, on a fait plusieurs disques ensemble, je ne sais pas à quel disque fait référence, mais en gros, lui, il est quand même dans la recherche de retrouver les saveurs qu'il a sur des disques des années 50-60. C'est un travail, à ce qui me concerne, plus classique. Alors, Boyan, Xenophonia... Il y a eu deux batteurs, j'insiste là-dessus, et il y a un batteur, moi, qui m'a carrément époustouflé au niveau du son, c'est Ben Perowski, qui joue sur la moitié du disque, qui lui, déjà, et je pense que c'est énormément un des facteurs hyper importants du son du disque, c'est, d'abord, il a un son de batterie systématiquement adapté au climat qu'on lui envoie, et ça, c'est remarquable, ça m'a frappé, on avait fait les séances de cette partie-là du disque à Davout. Quand Ben Perowski est arrivé, j'ai fait Plérec, je ne le connaissais pas. J'ai appris à le connaître après parce que j'ai vu plein de groupes que j'adore dans lesquels il joue. Et c'est vraiment. Et j'ai été sidéré parce que à chaque fois que Boyan envoyait une thématique ou quoi, la façon avec laquelle il répondait à la batterie, c'était absolument incroyable. Incroyable de texture sonore, de propositions qui étaient complètement, absolument pas ce à quoi on aurait pu s'attendre. À chaque fois, je disais à Boyan, c'est incroyable, il faut vraiment faire un sample. Donc ça, je pense que ce travail-là, il est lié beaucoup aussi à cet aspect-là de la batterie, qui a été enregistré d'une façon assez traditionnelle, mais la seule différence, c'est que le gars a un son exceptionnel, c'est-à-dire il répond à ce qu'il écoute au casque avec un son immédiatement adapté, il doit faire un tour de clé, un toucher incroyable, il joue pas très fort, mais il a une science du timbre exceptionnelle. Alors ça, c'est tout simplement, il suffit de l'enregistrer. Et puis il y a Boyan, qui a une science du son exceptionnelle aussi, dans son rapport au piano, le mélange avec le Rode, et en particulier ce qu'il appelle le xénophone, c'est-à-dire un Rode qu'il a complètement trafiqué avec des quarts de ton et dans lesquels il met pas mal de pédales de disto. Je pense que ce qui se passe au résultat sonique, c'est le mélange de tous ces aspects-là qui sont les timbres tout simplement respectés et les idées des musiciens en question. Il n'y a pas de truc farfelu, il n'y a rien de très compliqué en fait. C'est vraiment, je crois que c'est ça, enfin, à moins qu'il évoque autre chose d'un point de vue sonique, mais ce qui fait ce disque, c'est... C'est Ben Perowski, quand il joue la grosse caisse, par exemple, sur le deuxième morceau, il a un réglage avec une certaine longueur de note, une certaine façon de jouer très peu, mais impeccable. C'est ça qui crée le son. C'est ça qui crée le son. Après, avec des bons micros, un peu de savoir-faire, et en mixant correctement avec Boyan, qui a un vrai goût et une vraie idée, c'est ça le résultat. Je crois pas qu'il y ait quelque chose de délirant. Beaucoup les musiciens qui ont un son chacun. Ouais, c'est ça la différence. Eric, lui, il a son trio avec lequel il a l'habitude de jouer. Je ne sais pas à quel disque il fait référence. Moi, ceci, ça fait le même moment que c'est le même batteur. Mais on est dans des approches plus classiques, plus éprouvées. Donc l'idée, simplement, c'est de faire en sorte que ça swing et que les choses se mettent bien les unes avec les autres. Mais c'est deux travaux différents, en effet, pour moi, ces deux disques.
Nous allons parler encore plus technique, mais là, on va parler matériel. Mmh. Et nous avons des questions de Pierre Gac, de Brest. Serait-il possible de découvrir son set de micro ou au moins son set de base?
Ouais, bah, alors le set de base, moi, je peux faire une liste de micros que
oui,
j'utilise.
Mmh.
Bon, il y a un peu de tout. Je dirais que j'ai des Bronner, j'ai des DPA, entre autres le 4041 que j'aime beaucoup. J'ai des DPA 4003, enfin DPA BK 4003, 4006, 4007. J'ai des Neumann M150 Omni parce que j'adore l'Omni. J'ai des Shops à lampe que j'aime beaucoup. Récemment, des micros Fléa que je rentre dans l'équation, avec lesquels je vais apprendre à me familiariser, mais qui m'ont donné de grands espoirs lors de derniers essais. J'ai des micros Bronner que j'aime beaucoup. Je crois que c'est, en gros, j'ai les Sandken, si. Ah si, ça j'aime beaucoup les Sandken. Et c'est des micros qui ne sont pas très utilisés en France pour des raisons que je ne connais pas. J'aime beaucoup, voilà. J'ai quelques Shops aussi, mais oui, en fait, j'ai un peu de tout. Mais je dirais que Bronner, DPA 4041... Ça, c'est des micros que j'aime beaucoup. La récente essai du 49 versus Fléa qui m'a donné de grands espoirs. Je trouvais vraiment intéressant.
Alors, quels sont vos périphériques préférés, préampli, compresseur, reverb? Parce que ce que rajoute Pierre Gac, c'est qu'il y a en général très peu de reverb dans vos productions.
C'est drôle, c'est marrant. Bah, déjà, c'est ce qui est très peu dans. En fait, c'est pas vrai. Peut-être très peu, ça dépend, d'abord ça dépend des projets, là encore, je serais curieux de savoir à quel projet la personne fait référence, parce qu'il y a des fois des personnes qui me disent l'absolu contraire, donc c'est vraiment systématiquement différent, mais sinon, c'est plutôt j'ai une 960 Lexicon que j'aime beaucoup, et qui a entre autres la particularité de pouvoir ne pas se faire entendre a priori, mais il y en a, j'ai une vieille EMT feuille d'or que j'adore. Sinon, j'ai de l'AMS, j'en ai pas mal, hein. J'en ai pas mal, AMS, TC. Bon, mais enfin, c'est essentiellement, j'aime bien la 960 pour sa façon de gérer les espaces, sans s'entendre forcément, mais j'ai des projets où on entend la réverb, et ça vraiment, c'est. Là encore, ça dépend des circonstances, hein. Mais enfin, voilà, et puis les préamps, j'ai des choses qui sont pour moi des choses très colorées que j'aime beaucoup, comme le Fern à lampe. Il y a des trucs, j'aime beaucoup les Millenia qui sont beaucoup plus neutres, qui encaissent énormément. Mais j'aime bien toutes ces bonnes machines, mais je n'ai pas de setup qui est quasi permanent, récurrent. Je n'ai pas non plus de. Je ne vais pas dire. Je sais que le Bronner, par exemple, pour une voix mariée au Fern, peut, quand ça marche, être fabuleux. Mais des fois, ça ne marche pas. Voilà, j'ai pas mal de matériel, mais par contre, j'ai aussi pas mal de façons différentes de travailler en fonction de ce que je recherche. Et puis, je laisse la parole au hasard, des fois aussi. Des fois, je me dis, tiens, je vais faire ça. On voit si ça marche.
Allô, allô ?
Oui, Frédéric.
Bonjour. Pour le matériel, effectivement, apparemment, il n'y a rien de révolutionnaire, à part que c'est du très bon matériel à chaque fois.
Bah oui, je ne sais même pas s'il existe du matériel révolutionnaire, en fait. Par contre, il y a des cloches qui sonnent chez vous, là. C'est pas mal.
Ah oui, 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 j'habite à côté d'une église.
Ça, c'est très joli, voyez-vous. Et voyez, par exemple, ça me sonne très poétique, ça. Et pourtant, c'est pris avec le micro et du téléphone.
Ah oui, c'est un très, très bon téléphone.
Ah, bah, vous me donnerez la marque.
80. Mais alors, par contre, il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que vous utilisez des micros Sandken. Alors,
ouais,
il y en a
ouais.
Plein chez Sandken des micros. Donc, lequel et pourquoi faire?
Alors, moi j'ai une paire de CU44, c'est les micros noirs, je crois que c'est les 44, avec les alimentations en 130 volts, avec un boîtier d'alimentation.
D'accord.
Bah, en fait, c'est tout simplement parce que c'est des micros que j'ai rencontrés il y a maintenant une douzaine d'années, parce que mon associé de l'époque les adorait, et il me les avait fait découvrir, et j'avais trouvé ça absolument fantastique. J'avais trouvé ça à la fois très musical, en même temps très précis, très beau. C'est des micros aussi que je n'ai jamais pu prendre en défaut. À chaque fois que je me suis retrouvé avec, sur du piano, c'est sublime. En overhead de batterie, je trouve ça très très bien, par rapport à ce que j'en attends. Hein. Sur des voix, ça peut être super. Du reste, c'est un micro... j'avais vu un article sur le net où c'était un des micros qui rentrait dans les micros favoris pour la voix de beaucoup de producteurs aux États-Unis. C'est en France, les gens sont réticents, j'ai pas compris pourquoi. Il m'a souvent été dit, c'est que sous prétexte que c'était japonais, ça devait sonner dur. Pour moi, ce sont des a priori que je ne. Enfin voilà, je n'en tiens pas compte. C'est des micros qui ont un système à double capsule, pour parler plus technique. Chacune, un peu comme des enceintes acoustiques, quoi. Et je trouve que c'est magnifique. Ça vous surprend ?
En fait, c'est un importateur qui n'est pas du tout présent dans le milieu de la musique, en fait. C'est l'importateur français qui a fait ce soir-là. On rencontre beaucoup en cinéma.
Ouais.
Mais très, très, enfin, c'est la première fois que...
Vous savez que ce n'est pas forcément les gens qu'on voit au balcon qui sont les plus intéressants. Hein.
Oui, bien sûr.
Peut-être parce que tout simplement, il est plus occupé à faire en sorte que ses clients soient satisfaits des micros qu'il vend plutôt qu'à faire de la pub. C'est possible, je ne sais pas. Mais en tous les cas, moi, je trouve que c'est d'excellents micros... vous voyez, pour vous dire, je suis absolument pas un dingue de tout ce qui est les Neumann 87 ou ces trucs-là qui sont classiquement considérés comme étant des référents. Moi, c'est le jour où j'ai commencé à mettre sur pied des Brunner, des Sandkens, des choses comme ça, que j'ai compris pourquoi il y avait contrebasse et contrebasse. Hein.
D'accord.
Parce que c'est sur ce genre d'instruments qui sont toujours très délicats à enregistrer.
Mais vous parlez du Brunner VM1, en fait.
Ouais.
D'accord.
Oui, j'ai deux Brunner VM1 que j'aime beaucoup. Qui ont des qualités, voilà, le jour où j'ai récupéré un VM1, je me rappelle, c'était, je mixais un disque qui avait été enregistré en Italie, et avant les mix, la chanteuse était venue faire les voix,
oui.
Et j'avais essayé ces micros sur cette chanteuse, et c'était la première fois que je voyais la voix s'intégrer à un mixage avec autant de facilité, et c'est pareil quand j'ai mis sur une contrebasse, et particulièrement, je trouve, adapté à la contrebasse.
D'accord.
Parce que l'erreur souvent faite, ai-je remarqué, c'est qu'on dit le micro a un vachement beau grave, donc on va le mettre sur une basse. Ce qui est stupide, parce qu'on va mettre grave sur grave, donc on va multiplier les problèmes. En général, sur une contrebasse, quand elle a à lutter avec une batterie, ce pour quoi elle n'est pas faite à l'origine. On est d'accord ?
Oui.
On a plutôt intérêt à prendre un micro assez précis, assez nerveux, assez rapide. Et dans ces cas-là, on va compenser la tendance qu'a la contrebasse à plutôt être difficile à sortir et à jouer rythmiquement. Parce qu'au départ, c'est pas fait pour ça, une contrebasse. C'est fait pour jouer dans un orchestre à 6 mètres d'un chef d'orchestre et à plusieurs. En aucun cas à se battre contre une batterie. Si tel était le cas, si le luthier avait su ça, il aurait dit « Attendez, je vais vous inventer un nouvel instrument ».
D'accord.
Quand vous écoutez une contrebasse-batterie en face de vous, vous entendez que la batterie, vous n'entendez pas la basse, on est d'accord là-dessus ?
Ça dépend quel contrebassiste joue, en fait.
Alors là, je sais, j'ai eu l'occasion il y a longtemps d'enregistrer des mecs comme Ray Brown. Bon, mais ils étaient avec des batteurs qui jouaient d'une certaine manière. Franchement, aujourd'hui, en 100% acoustique, vous avez déjà entendu contrebasse-batterie jouer avec une égalité ?
C'est rare. C'est rare. C'est vrai que c'est très rare. Oui. Mais après, ça dépend beaucoup du batteur. Et,
c'est clair.
Ce genre de choses,
c'est clair. Mais enfin, il n'empêche qu'en général, on est quand même obligé de lutter contre la vocation initiale de l'instrument. Hein, parce que ça n'a pas été fait pour ça au départ. C'est pour ça que les trois quarts du temps, les gens dans les clubs jouent de la contrebasse branchée sur un ampli. Sinon, ils jouent acoustique.
Avec un pied d'eau.
Et quand on me dit « c'est génial, le disque, il sonne comme quand la dernière fois que j'étais en club », pour moi, c'est la pire des insultes, c'est épouvantable ce qu'on entend dans les clubs, évidemment.
Pour des cas plus précis, le VM1, vous l'avez utilisé sur enregistrement d'Angélique Ionatos aussi, non ?
Oui, en effet.
Sur sa voix.
Oui, il y a un truc que j'aime bien dans ce micro. Ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut selon. Il a des défauts hein, aussi, hein. On peut en revenir dessus. Mais il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'on peut s'approcher très très près sans un effet de proximité trop important. Donc au début, ça trouble un peu les chanteuses. Enfin, une chanteuse comme Angélique, c'est quand même une sacrée chanteuse, donc elle s'habitue très vite. Après une petite heure un peu déconcertée, elle s'est très vite habituée. Et voilà. Par contre, c'est un micro qui peut avoir le défaut de mettre en avant des sibilances.
On voit des photos en fait sur l'album collées vraiment au micro.
C'est des photos qui correspondent à la réalité. Souvent sur des chanteuses comme ça qui savent particulièrement bien gérer, qui sont des vraies chanteuses, j'entends. Je leur suggère très souvent de se rapprocher, de tenter des choses en se rapprochant. Je leur propose souvent de s'approcher, s'éloigner, de jouer avec le micro pour essayer de développer un truc un peu émotionnel avec, parce qu'il en a la possibilité, clairement. Mais par contre, c'est un micro qui pardonne pas trop, et c'est la raison pour laquelle je me suis mis récemment en recherche de micros peut-être un tout petit peu plus doux et qui mettent moins en évidence les problématiques de sifflante. Contre lesquels aussi, je suis souvent obligé de lutter un petit peu en creusant un peu vers 7 kilos ou en déessant. Enfin voilà, ça a ces défauts-là aussi. C'est le défaut de la rapidité de la précision. Forcément, il y a des effets collatéraux.
Et c'est pour ça que vous avez pris les microflets, hein, en fait.
Exactement. L'idée était de chercher des choses plus sweet. Et du reste, on a fait des essais avec les assistants que j'avais la dernière fois en studio. On les a mis tous sur pied. J'ai demandé à l'assistant de me faire des phrases du genre « les chaussettes de l'archiduchesse », vous voyez, genre. Hein. Et c'est vrai que c'était très étonnant. J'étais très, très content parce que ça me solutionnait mon problème. Le Brunner, vous balancez les sifflantes et une certaine projection, agressivité dans l'aigu, qui suivant selon peut être à la fois une belle texture de précision, mais parfois trop. Et j'ai trouvé avec le Fleax, c'était... De ce point de vue-là, super intéressant parce que beaucoup plus sweet.
D'accord.
avec peut-être obligation pour retrouver la saveur du Bronner de faire peut-être parfois une petite correction dans le médium. Après, c'est vraiment après, ça dépend des voix, etc. Voilà.
D'accord. Mais le fléa, vous allez l'utiliser aussi, aussi près comme ça avec des senteurs ou...
J'ai déjà commencé à utiliser le fléa. La dernière fois, j'ai le 47, j'ai fait une prise avec Higelin. Mm-hmm. C'était super. Et Rodolphe Burger, le chanteur, est venu. Mm-hmm. Je lui ai fait essayer le 47 et le 49. Mm-hmm. Pourtant, le 49, ce n'est pas un micro qui devrait être considéré vocation voix, quoique en classique, il l'utilise beaucoup sur les voix féminines. Et le 49, c'était somptueux sur Rodolphe. C'était doux, c'était très beau, mais en même temps, il a un grain. On a fait une voix témoin avec un SM57, c'était déjà génial. Donc voilà, c'est vrai, c'est des effets. J'aime bien avoir un parc. Là, je pense que j'adore aussi le 40-41 sur les voix.
Ah oui.
Ah ouais, ouais, ça c'est super. J'ai fait les voix de Denis Péan, le chanteur de l'Ojo, là, entièrement avec le 40-41, de Marcel Canche aussi. Et ça, c'est super aussi. J'aime bien avoir des alternatives.
Voilà. Merci beaucoup, on a eu plein de références du coup là.
Mais bon, faut pas les prendre. Pff, attention, hein.
Non.
Vous savez, les références, c'est ce qui vous convient. Hein. C'est le micro avec lequel vous vous sentirez bien, et vous savez, les problèmes en son, c'est pas homothétique. C'est-à-dire que la solution que vous croyez avoir découvert, eh ben, va pas être là pour le projet suivant. C'est ça l'enfer. C'est ça qui est bien.
C'est rigolo.
Hein?
C'est ça qui est rigolo. Ouais.
C'est ça qui est rigolo, mais c'est ça qui fait que c'est, on creuse sans arrêt. Il y a, c'est, voilà.
Eh ben merci.
Au revoir.
Au revoir.
J'ai une petite question pour rester sur les micros.
Ouais, tu aimes les micros, hein ?
J'aime bien les micros, hein. On sait que les temps sont durs pour les ingés, pour tous les gens de la musique, pour les studios, etc. Est-ce que tu n'as pas été tenté à un moment de prendre le virage vers l'Est et d'aller un peu voir ce qui se faisait du côté de la Chine, de prendre des micros peut-être un peu plus abordables financièrement ? Est-ce que tu as déjà mis à l'épreuve quelques productions qu'on appelle en général chinoises, parce qu'on
bien
sait
sûr.
Que c'est surtout fabriqué là-bas ? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire ça, la volonté de faire ça ?
Carrément, mais je l'ai fait.
D'accord. Et alors ?
Bah, j'ai été très surpris favorablement, dois-je dire. Alors, je ne sais pas si là aussi, il faut que je cite des noms.
Enfin, allons-y.
Bah, bon, moi, je suis plutôt curieux de nature et il se trouve que j'ai un ami de longue date qui est importateur de différentes marques que tu dois connaître, JB, là, du
Jukebox.
Bon. Et il se trouve qu'il a commencé à importer les studios Project. Et donc, bah, je lui ai demandé de me les prêter pour essayer, mais je te parle. Je pense que maintenant, ça nous fait un bon 5-6 ans. Hein. Et j'ai été épaté par ce que j'ai entendu. En particulier, le haut de gamme à lampe, bah, qui coûte quand même au moins moitié moins cher que n'importe quel référent reconnu, hein, type Neumann.
Ouais.
Moi, personnellement, je me suis amusé avec l'assistant que j'avais à l'époque, avec un casque sur la tête, à mettre un Neumann et ce studio Project l'un à côté de l'autre. Et je me suis amusé à mettre un casque et parler dedans. Je trouvais vachement plus... J'étais beaucoup plus excité parce que j'entendais avec le studio Project. Je suis désolé. Hein,
mais...
je parle d'un. Là, en l'occurrence, c'était un Neumann TLM-170, qui est un micro correct, à mon sens, sans plus, de mon opinion. Et j'ai adoré les défauts qu'il avait, si on peut parler de défauts. Il est assez rond dans le bas. Enfin, en gros, je trouve qu'il marche très bien sur les cuivres, hein, les sax, entre autres. Par exemple, le Bronner, je trouve que ça ne marche pas sur les cuivres. Les sax, à chaque fois, j'ai un truc à graisse, ça me dérange. Par contre, ça, je trouve que ça marche très bien sur les cuivres. Alors, un jour, j'étais en train de faire un disque avec le flûtiste Magic Magic et je mets un de ces micros chinois au saxophoniste, Denis Guivarche, et il me regarde, il me dit « Ah, mais tu m'as pas mis un Neumann hein ?» Je dis « Bah écoute, tu verras. » Bah, le mec, il a vu et il en a commandé. Hein. Et maintenant, il fait ses enregistrements parce qu'il fait un peu de production avec ce micro-là. Alors, par contre, c'est pas très bien fabriqué. Tout ce qui est de l'ordre à castillage, c'est un peu... Mais bon.
C'est ce que l'on reproche d'ailleurs aux micros chinois. C'est en fait une espèce d'irrégularité dans leur production.
C'est probable, oui. Mais enfin, en même temps, par contre, de ce que j'entends après sur la bande, je trouve que c'est un bon investissement. Maintenant, moi j'ai un copain aussi qui a suivi mes conseils et qui en a récupéré une paire. Alors lui, il a refait entièrement toute la connectique. Parce que c'est ça le point faible au départ, hein, c'est la connectique, elle est vraiment pourrie. Mais sinon, et puis je pense que ça vieillit moins bien. Mais le rapport investissement sur résultat, je trouve qu'il peut être assez favorable. Un jour, j'ai fait le disque de Pierce Faccini dont on parlait la dernière fois. J'avais essayé sur la voix, ça marchait pas trop. C'était trop d'effets de proximité, c'était pas très beau. Là, pour le coup, le Bronner l'emportait. Par contre, la guitare, je me souviens maintenant, je l'ai enregistré avec un couple illégitime. Ça, j'aime bien faire ça. C'est-à-dire, j'avais un couple sur la guitare, Bronner chinois. Et souvent, des trucs comme ça, je trouve que ça crée des trucs pas mal. C'est totalement en dehors des normes, des micros appairés. Et des fois, j'aime bien faire ça. Et donc, je dis, moi, je suis super partant pour découvrir des micros. Et je trouve que, du reste, les Chinois, je vois pas pourquoi ils seraient incapables de faire un micro. C'est des gens intelligents. C'est des gens qui, ils ont, je crois que c'est eux qui ont commencé à faire des, à remplacer des mains, à faire de la chirurgie. Franchement, je veux dire, quand on arrive à recoudre la main d'un mec, si on n'est pas foutu de faire un micro, surtout quand on a les machines-outils qui ont été, franchement, faut pas arrêter de prendre les gens pour des cons. Enfin, pour dire, je vois pas pourquoi ils n'y arriveraient pas. C'est, au contraire, ils sont minutieux. Enfin, c'est des gens, en plus, voilà, culturellement. Moi, je me rappelle quand on avait un camarade chinois à l'école, c'était des mecs qui dessinaient super bien, qui reproduisaient les trucs vachement bien, vachement méticuleusement. Donc, faut arrêter. Très bien.
Fin de la première partie avec Philippe Tessier-Ducrot. Merci Philippe. Rendez-vous à la semaine prochaine pour une deuxième partie. Ici, autre radio, autre culture. Au revoir. Autre radio, autre culture.